Et bonjour, c'est le retour, le lundi, c'est le podcast, et si j'étais libre avec moi-même, Harmonie Albertini. J'espère que vous allez bien, le podcast arrivera sûrement tard dans la soirée du lundi ou peut-être dans la nuit du mardi, désolé. Le lundi c'est toujours un peu touchy parce qu'il faudrait que j'anticipe le sujet. Et des fois, je n'ai pas le temps. J'ai vraiment une vie à 1000 à l'heure, pour pas dire à 2000 à l'heure. Mais c'est pour mon plus grand plaisir. Et donc, du coup, j'ai fait un petit sondage tout à l'heure en story Instagram. N'hésitez pas à me suivre hein, sur Instagram, Harmonie Albertini. Et donc, je vous ai demandé quel était le podcast qui vous intéressait. C'est vrai que le sujet de l'hypersensibilité est quelque chose qui vous intéresse pas mal. Donc, du coup, j'ai décidé de nommer ce podcast « Et si j'étais libre d'être épanouie et hypersensible ?» Et ouais, l'hypersensibilité, c'est un sujet qui a un peu tendance quand même depuis quelques années. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai envie de dire, sur le tard, entre guillemets. Hein. Enfin, oui, forcément sur le tard par rapport à mon âge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité assez facilement sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un concept apparemment qui n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il y a quand même beaucoup de recherches, hein, évidemment, sur le sujet. Moi, j'ai lu un livre sur le sujet qui m'a permis de vraiment mettre le doigt dessus. Après, j'ai évidemment pris beaucoup de recul sur l'hypersensibilité. Je l'ai vu en 360. Je l'ai observé beaucoup autour de moi. J'ai lu beaucoup d'articles, etc. sur le sujet. Et je me suis rendu compte que l'hypersensibilité, c'était vu quand même comme un truc, genre c'est une tare, quoi. C'est « Oh, mais moi, je suis hypersensible, c'est horrible. » Parce qu'on est dans un monde qui n'est pas en majorité hypersensible, même s'il y a apparemment, il y aurait de plus en plus de personnes hypersensibles. Et du coup, y a vraiment ce côté, c'est un handicap, c'est horrible, ça m'empêche de vivre, etc. Et j'avais un petit peu envie de mettre mon grain de sel sur le sujet. Alors déjà, l'hypersensibilité, c'est quoi? Le fait d'être hyper sensible, c'est en fait d'avoir une sensibilité plus exacerbée que la moyenne. Alors c'est pas être hyper émotif, hein. La sensibilité, ça veut pas dire chialer... toutes les deux minutes. Hein. Alors, on peut évidemment être pris de beaucoup d'émotions et peut-être potentiellement pleurer, mais c'est pas ça. Et évidemment, l'hypersensibilité, c'est pas que juste les émotions. L'hypersensibilité, ça peut être d'entendre de très loin, de sentir des choses, de sentir des odeurs de façon très forte. L'hypersensibilité, ça va comprendre tous les sens. Toutes les perceptions qui peuvent se décupler, évidemment, souvent dans l'hypersensibilité, il y a aussi une sensibilité artistique, une sensibilité émotionnelle. On dit souvent que l'hypersensible est quelqu'un de surdoué. Je dirais même que c'est le surdoué de la sensation, de l'intuition, de l'émotion. C'est un peu comme ça que je perçois l'hypersensibilité. Et pas, et évidemment, ça peut très, très mal être géré quand on n'accepte pas et quand on ne le sait pas qu'on l'est. Et c'est ça qui va être intéressant dans ce podcast aujourd'hui. J'avais beaucoup, beaucoup envie de mettre de la beauté dans l'hypersensibilité et vraiment vous dire ouais, il y a des solutions pour le vivre bien, vous inquiétez pas, parce que même moi en fait j'y croyais pas. Donc voilà un peu, alors je vous ai fait un gros topo. On dit qu'en fait il y a une personne sur 5 en moyenne, une personne sur 4, une personne sur 5, on dit qu'il y a entre 20 et 25% de la population qui serait potentiellement hypersensible. Évidemment, c'est trop difficile de pouvoir vraiment le quantifier, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, l'hypersensibilité, ça va souvent être des enfants qui peuvent être en marche au niveau scolaire, qui ne sont pas adaptés au système, qui est un système de logique. Et l'hypersensible n'a pas la logique cérébrale ou intellectuelle. Ça peut, hein, mais beaucoup moins. Moi, je vois qu'il y a des trucs, je mets 15 ans à les comprendre. À l'école, quand j'étais petite, j'apprenais par cœur pour être validée, et pour autant, j'étais pas... Je comprenais pas grand-chose de ce que j'apprenais. Par contre, tout ce qui va être émotionnel, artistique, etc., je le comprends mieux. D'ailleurs, les hypersensibles sont la plupart du temps des artistes, des thérapeutes, des gens qui vont être dans le social. Vraiment, des métiers où il va y avoir de l'émotion, tout simplement, de l'émotion, du contact avec les autres. Un hypersensible va beaucoup moins s'épanouir dans la compta... dans un truc hyper administratif ou alors j'allais dire dans les sciences, oui, tu peux être hypersensible et travailler dans les sciences, mais évidemment, ça demande beaucoup plus de rationalité, de self-control. On peut avoir un self-control, enfin, j'aime pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire quand on est hypersensible. Donc, je vous fais un petit topo de moi en rapide pour après venir plus au côté, genre, solution, si je puis dire. Du coup, bah, moi, j'ai grandi dans une famille avec une mère hypersensible. Bon, enfin, elle le sait pas, c'est moi qui vous le dis, elle l'est, je sais. Donc, une mère hypersensible. L'hypersensibilité, on dit que ça arrive. En fait, on ne naît pas hypersensible, apparemment, au vu des recherches donc, qui ont été faites. En général, ça se déclenche dans l'enfance par rapport au contexte dans lequel on vit. Ça peut être en rapport avec nos blessures, avec des traumas, avec une perception des choses. Donc, en général, l'hypersensibilité se développe dans l'enfance. Et c'est vrai que, bah, du coup, c'est vrai que quand ma mère me raconte l'enfance que j'ai eue, enfin, même en tant que nourrisson, j'ai mis 2 ans pour faire mes nuits. Je pense que mon hypersensibilité était déjà, finalement, peut-être même intra-utérus, si vraiment en croire les dires de ma mère, ma sensibilité, elle était énorme. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein. Un enfant qui pleure pendant les 2 premières années de son existence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc probablement qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans mon environnement familial. J'y étais pas, je peux pas vous dire. Et j'ai pas posé forcément toutes les questions. Mais voilà, en tout cas, je pense que mon hypersensibilité était déjà bien, bien accrue. Mais voilà, ce qui est dit, c'est que ça arrive dans l'enfance. Donc on ne naît pas hypersensible, mais je pense qu'il y a des enfants qui peut-être intra-utérus ont peut-être déjà. Bah, faut savoir, on peut avoir des traumatismes même dans le ventre de notre mère. Hein, ça c'est absolument, absolument possible. On peut sentir une grossesse qui se passe très mal, avec beaucoup de stress ou autre. Je pense que ça peut. Enfin, je pense, ça a été prouvé que ça peut avoir un impact sur le fœtus et aussi sur sa santé mentale, si je puis dire. Donc voilà, c'est hyper important. Alors, faut pas se culpabiliser, on fait du mieux qu'on peut, évidemment. De toute façon, que ce soit nous ou nos enfants, tout le monde aura des blessures, tout le monde aura des traumas. Et faut juste bah, faire le mieux qu'on peut pour amoindrir et leur donner du bonheur, mais ce sera la vie. Voilà, c'est horrible de se dire qu'il y a des êtres qu'on va mettre au monde et qui vont vivre des trucs horribles, mais c'est l'existence, c'est la dualité. Maintenant, on fait du mieux qu'on peut comme on peut. Bref, je reviens au sujet principal. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup souffert dans l'enfance de ma sensibilité parce que bah, c'est vrai que bon, on se moquait beaucoup de moi, que ce soit dans ma famille ou mes amis. Bon, c'est toujours un peu foutu de mon imagination, de ma création, de ma sensibilité. J'avais besoin de m'exprimer sur beaucoup de sujets. C'est vrai que je me sentais à la fois, parfois, je me sentais écoutée et qu'on me laissait de la place. Mais j'avais l'impression que quand j'essayais de prendre encore plus de la place et me dire waouh, il y a une porte qui est ouverte, je me disais non, wow, calme-toi. On va se calmer là, ne sois pas trop toi-même. Tu vois, ça ne correspond pas. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une histoire de cerveau gauche et cerveau droit. Alors, je ne sais plus lequel c'est des deux. Je vous avoue que ça fait longtemps que je ne m'intéresse plus autant au sujet de l'hypersensibilité. Vous savez, des trucs, une fois que c'est passé dans votre vie et que vous n'avez plus besoin de mettre une étiquette, vous ne replongez pas dans toutes vos connaissances. Mais encore une fois, mon podcast, vous prenez, vous jetez, c'est du blabla. Hein, c'est pas un podcast scientifique, c'est du blabla entre vous et moi avec mes réflexions, mes connaissances, mon expérience. Et donc, je crois, si je dis pas de bêtises, que le cerveau droit est l'émotionnel et le gauche le rationnel, mais sans aucune conviction. Donc, on travaille plus avec l'un ou l'autre. Et c'est vrai que l'hypersensible travaille plus avec la partie du cerveau qui va être celui de l'émotionnel, de la création, de l'imagination, etc. Alors que ce qu'on appelle un normopensant, c'était le nom que j'avais lu dans un livre pour comparer les hypersensibles et les normopensants. On aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, voilà, c'était le terme. Ils vont être beaucoup plus rationnels, enfin, vont pas forcément comprendre les envolées lyriques d'émotions, cette envie de créer, cette importance à créer, à imaginer, à visualiser, à voilà, ce côté un peu des fois perché qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Après, il y a aussi des hypersensibles qui n'ont pas du tout l'impression d'être des artistes et qui se sentent paumés parce que, bah, en fait, ils ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions ou autres, ou à comprendre leur sensibilité dans un monde où, en fait, on les a toujours empêchés de l'être. Ils ne savent même pas, en fait, qu'ils sont hypersensibles. Juste, ils se disent « je suis dépressif, je suis pas bien, je suis toujours à l'ouest, je vis toujours les choses de façon trop forte » ou... Enfin, bon, bref. de manières diverses et variées. Et en fait, parce que des fois, c'est pas forcément des artistes à proprement parler, ça va être plutôt des gens qui vont avoir besoin d'aider les autres, d'être thérapeute, d'être dans l'humanitaire. J'ai pas tous les métiers du monde en tête, mais il peut y avoir d'autres métiers beaucoup plus dans l'accompagnement que dans l'artistique. Et y a beaucoup de, y a beaucoup encore à regarder sur l'hypersensibilité. Alors, je te dis pas, hein, ça se trouve, tu peux très bien être un hypersensible et vouloir être un scientifique, comme j'expliquais. Encore une fois, il n'y a pas de cases à imposer. Je parle vraiment des tendances. Hein. Je parle vraiment des tendances. Et puis artiste aussi, c'est très 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 large. Hein. L'artiste, ça peut autant être le réalisateur, que ça va être le chanteur, que ça va être le peintre, qu'un artiste, ça peut être un metteur en scène, ça peut être, j'en sais rien, l'artiste, ça peut être bah, là, la créatrice de contenu, quelqu'un qui va ouais, donner des conférences. L'artistique, c'est très 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 large. Hein. L'artistique, ça peut aussi être, bah, tu tiens une galerie d'art en fait, et même si tu ne crées pas l'art, bah, tu es dans le milieu de l'art, donc il y a quelque chose, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, vraiment, j'ai souffert de tout ça. En plus, bon, bah, j'ai été maltraitée avec mon poids dès mon enfance. Donc, j'ai eu développé des troubles du comportement alimentaire. Tout était horrible pour moi. Tout était trop. Quand j'avais une émotion qui était difficile à gérer, j'avais vraiment l'impression que c'était la fin du monde. Bon, en plus, à l'adolescence, vous-même, vous savez, on a vraiment l'impression qu'on va jamais s'en remettre quand on a une trahison, une peine de cœur, un jugement ou autre. Bon, malheureusement, ça continue pour certaines personnes à l'âge adulte. C'est bien là le souci, surtout quand on est hypersensible. Et en fait, moi j'ai souffert de tout ça, et parce que en fait je cherchais tout le temps que mes parents me valident. C'est-à-dire que ma mère, hypersensible, qui ne le sait pas et ne l'assume pas, mon père, pas du tout hypersensible. Ça peut être, les gens qui sont pas hypersensibles, ça veut pas dire qu'ils ont pas de cœur et qu'ils sont pas sensibles. Ils le sont, mais pas une manière de réfléchir, de penser, de poser les choses qui n'a rien à voir, quoi. Vraiment. On est à deux extrêmes opposés, et c'est vrai que bah, ma sensibilité était quelque chose de dérangeant. Pour quelqu'un qui est ce qu'on appelle énormopensant, c'est dérangeant, c'est gênant. Alors il y a la culture, l'éducation et tout ça, puis il y a aussi le fait que je comprends pas. Ma sensibilité, quand j'ai tenté de l'expliquer à l'âge adulte, quand j'ai su que j'étais hypersensible, et je vais vous raconter comment je l'ai su, ma sensibilité, quand mon hypersensibilité, quand j'ai voulu l'expliquer, bah, je me suis heurtée à des. À un moment donné, quand je me suis dit, mais en fait, on comprendra jamais, mais je vais quand même expliquer à des, bah, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Mais on accepte. Mais c'est vrai qu'on comprend pas ce que tu ressens. Parce que nous, on ressent jamais les choses à ce point-là. Mais on respecte. En fait, c'est tout ce que je pense qu'un hypersensible veut. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie qu'on me comprenne. Hein. Je ne trouve pas forcément d'intérêt à ce qu'on comprenne, mais juste qu'on respecte. Voilà, je te respecte. Voilà. Alors, personne n'est obligé, hein, de nous respecter. Ce n'est pas une obligation. C'est plutôt cool quand on nous respecte. C'est plutôt mon souhait qu'on me respecte. Mais on n'est pas obligé de ne pas me respecter. Sauf si on. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Sauf si c'est illégal, si c'est un crime. Mais c'est important aussi de répéter, hein, on n'est pas obligé de vous respecter. Ça c'est pareil, ça c'est une valeur hyper importante qui va plutôt induire, si on nuit à votre santé, à votre intégrité ou au caucus, mais un manque de respect, ça peut être ne pas tenir une porte, hein, vous voyez? C'est-à-dire que ça c'est de la bienséance. Bon, c'est évidemment le mieux, hein, pour vivre en société et en paix, mais ce n'est pas une obligation. C'est horrible ce que je dis, hein, je sais, hein, mais c'est une réalité. Donc. Je reviens à autre chose, oui, je sors des punchlines comme ça, de droite à gauche, voilà. Forcément, je coupe là, mais je vais pas épiloguer sur l'histoire du respect, encore une fois. Et donc, si vous voulez, bah, ce qui est important pour moi, dans ma vision des choses, j'ai pas forcément envie aujourd'hui qu'on comprenne tout, mais juste qu'on respecte ou qu'on dise, bah, écoute, c'est vrai que c'est pas dans ma façon de voir les choses, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes principes, ou c'est juste pas dans ma compréhension viscérale. Enfin, pour moi, c'est comme si tu me parlais une autre langue. J'arrive pas à percevoir que tu puisses ressentir les choses comme ça. Quelqu'un vous dit, moi personnellement, quand j'entends du bruit, même au quatrième étage, ça m'empêche de dormir. J'ai plus le nom, mais c'est une hyper audience. C'est le bon terme. Il y a un nom pour ça. Du coup, tu ressens ça, ok, d'accord, super, mais moi en fait, je le comprends pas puisque j'ai jamais vécu. Je peux pas comprendre un truc que je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc. Ça c'est déjà un premier point, et moi c'est vrai que l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça a créé chez moi, le fait de ne pas le savoir, bah, la honte d'être moi, la culpabilité dès que je ressentais un truc. Putain, mais qu'est-ce que je me sentais coupable quand je ressentais des choses? de façon extrême. Parce qu'en plus, plus tu te sens coupable et plus les choses prennent de la place et sont exacerbées et toi-même tu te juges de le ressentir. C'est la même chose pour les troubles du comportement alimentaire ou autre. Plus tu te sens coupable de ce que tu vis, de ce que tu fais, et pire, la chose, elle devient un monstre à détruire alors qu'au final elle fait aussi partie de toi, elle a un message à t'envoyer, quoi. Donc au final, bah, c'est ça qui fait que l'hypersensibilité devient une peine, une douleur, est exacerbée, c'est quand on la rejette parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on essaye de ne pas être comme ça. Moi, je veux pas être comme ça, je veux pas ressentir autant. Mais sauf que du coup, bah, c'est là où on en vient à pleurer peut-être de façon exacerbée, à nous sentir coupable de ressentir ce qu'on ressent, à être différent, à ne pas être validé par nos pairs, etc., etc. Et moi, c'est un truc que vraiment, j'arrivais pas à comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu d'ailleurs des dépressions, parce que bah, j'étais pas alignée dans la vie que je voulais. Moi, en tant qu'hypersensible, être dans un taf en tant que salarié avec un patron, dans ma perception, avec aussi mon côté liberté, leader et tout ça, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on me dise lève-toi à telle heure et fais telle chose. Je peux vous dire que ça, je suis tellement, mais tellement heureuse d'avoir réussi à me libérer de ça. Des fois, quand j'en parle, j'ai l'impression, en même temps que c'est naturel ce que je veux aujourd'hui, et en même temps, je sais les années où j'ai galéré pour sortir de ce système qui ne me correspondait pas. Et donc, bref, le patron, le machin, le fait d'avoir. À un moment donné, j'étais assureur et je me souviens quand je faisais la formation. Pourtant, j'ai aimé ce métier. C'est vrai, franchement, j'ai appris plein de choses en assurance. On ne peut plus m'arnaquer en assurance. Je connais tout. Je peux te lire un contrat entre les lignes. Je suis très, très forte là-dessus maintenant. Donc, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris aussi la structure, le fait voilà, de prévoir comment faire un contrat, de faire un pitch au niveau commercial. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris aussi. Dans le positionnement à avoir pour savoir vendre quelque chose, évidemment, auquel on croit, les contrats d'assurance, la boîte où je travaillais, franchement, c'est pas pour faire, hein, me dire oui, les assurances, c'est des arnaqueurs et tout. Oui, si on veut, évidemment, mais en tout cas, j'aimais vraiment la boîte dans laquelle je travaillais parce que c'était pour des petits métiers de bouche. Donc, c'était sur des petits commerçants, c'était pas, voilà, on faisait pas de grosses chaînes, on assurait des pros, mais c'était, bref, c'était vraiment cool. Le rapport avec les gens était cool, j'aimais beaucoup les contrats, la maison mère, le siège était vraiment top, enfin, voilà. Mais du coup, j'ai fait une formation de 3 mois. Donc, c'est-à-dire du lundi au vendredi, pendant 3 mois, bah, j'étais en formation. Et c'était horrible. Je pense qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Dans cette boîte, j'ai bossé là-bas pendant quasiment 3 ans, je crois. 2, 3 ans, ouais. Et en fait, ce qui a été horrible pour moi, c'est que, je sais pas, hein, en fait, je me sentais mal. Je me souviens à l'époque, mon ex, je l'appelais en pleurs et je lui disais, je vais mal, j'ai l'impression que je suis au mauvais endroit, que je vais jamais réaliser mes rêves, c'est pas ce que je voulais faire. Mais en fait, j'étais perdue. En fait, je voulais juste quitter un taf que j'aimais pas, avec qui, un CDI, avec qui ça passait super mal pour un autre CDI, mais bah, je touchais un meilleur salaire, j'avais un meilleur poste, vraiment, je passais un gap. En fait, c'est vrai que le gap que je passais, c'est comme si j'avais sauté 3-4 postes pour arriver à celui-là d'un coup. Donc, c'est vrai que c'était hyper flatteur pour moi qu'on me fasse confiance pour un tel poste. Clairement, j'avais aucun diplôme, c'était que du bagou, ils avaient juste aimé ma personnalité. Et pour autant, j'ai pas été hyper efficace en tout, mais j'ai été quand même un bon élément dans la société. Mais j'étais pas la plus efficace parce que j'étais pas la plus investie. Mais je me souviens que j'étais en dépression, quoi. C'était un concept pendant les 3 mois. Je crois que au moins le premier mois, je pleurais tout le temps et tout, mais je faisais bonne figure, hein, et c'était horrible. En plus, ma relation amoureuse de l'époque, on disputait souvent, donc c'était compliqué. Ah, c'était compliqué. Oh, ah ouais, c'était complexe. Je m'en souviens, c'était. Oh. Ouais, c'était un concept. Et en fait, là, c'était déjà, comment dire, l'expression de qu'est-ce que la sensibilité pouvait avoir comme impact sur moi. Il y a des moments clés comme ça dont je me souviens. Le fait de devoir exprimer des choses, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Puis, l'hypersensibilité, moi, je perçois des choses chez les gens que les autres ne perçoivent pas. Et des fois, c'est chiant parce que moi, je peux te dire de cette personne. Très souvent, je peux pas dire à tous les coups parce que bah, en fait, juste aujourd'hui, j'ai une vie tellement prise que je m'attarde pas. Mais il y a des gens, je vais les rencontrer, je vais juste dire non. Voilà, non, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas autrement, je sais. Oui, il y a des gens, des fois, je les rencontre. J'ai envie d'y aller pour plein de raisons, mais je sais qu'un jour, ça va se finir. Ça, c'est chiant. C'est-à-dire que, en fait, j'arrive à prévoir la fin des relations, des fois, avec les gens. Pas 100%. Mais en général, je me trompe pas trop. Maintenant, j'ai appris à justement à être beaucoup plus tempérée et à accepter aussi qu'il y a des relations qui arrivent et qui partent et elles ont forcément quelque chose à nous apporter. Je suis moins radicale parce qu'avant, j'étais plus radicale pour me protéger émotionnellement. Maintenant, j'arrive à savoir me faire respecter et puis à pas avoir peur peut-être de dire les choses, à pas avoir peur d'être jugé, à pas avoir peur, voilà. Bon, évidemment, toute proportion gardée, par moment on est vraiment on est touché parce que dans un moment clé on est plus fragile ou plus fatigué, peu importe. Mais voilà, on perçoit des trucs. L'hypersensible, j'ai l'impression, il y a ce côté où bah, il est clairvoyant. Il est hyper intuitif, puisqu'il est beaucoup sur les énergies, l'émotionnel, il capte des trucs. On dit qu'il a un peu un sixième sens, l'hypersensible. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que je ne considère pas être médium particulièrement, mais je sais que plus j'accepte qui je suis, plus aussi bah, je m'ouvre un peu plus à l'énergétique et tout. C'est pas un podcast sur l'énergétique, donc on va pas y aller. Mais on en parlera peut-être si ça vous intéresse. Faites-moi un message sur Instagram pour me dire. Mais du coup, c'est vrai que c'est une réalité, pardon, c'est une réalité qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif. Et puis, il y a des choses qu'on perçoit. Il y a une grande intelligence émotionnelle dans l'hypersensible. C'est-à-dire, il perçoit des choses, il arrive à mettre des mots sur des choses que d'autres personnes n'arrivent pas. Et c'est assez puissant. Parce que, on n'a pas toute cette capacité de comprendre ce qu'on ressent. Et de pouvoir le verbaliser. On n'a pas la capacité de comprendre forcément toujours ce que l'autre sent. Moi, des fois, j'arrive à mettre des mots sur des situations, que ce soit moi ou d'autres personnes, et les gens me disent, mais c'est fou, c'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que c'est une grande capacité parce que c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est un peu le surdoué de l'intelligence, si je puis dire. Après, on peut très bien avoir un QI élevé, être hypersensible, hein. D'ailleurs, j'en connais autour de moi, j'en connais plusieurs. Donc voilà, bon, je vais pas passer tous les caps de ma vie où j'ai ressenti l'hypersensibilité, si ce n'est un peu dans tout, hein, dans ma vie. Et ce côté un peu radical, la culpabilité, le fait d'essayer de s'effacer pour être quelqu'un d'autre, pour être validé, pour être aimé. Puis il y avait ce côté où je me souviens de ma dernière dépression. C'était horrible. C'était horrible parce que vraiment, c'est une année. Cette année-là, je m'en souviens avec un nuage noir. Au-dessus de ma tête, je crois que je l'ai déjà dit dans un autre podcast. Vraiment, j'ai l'impression que quand je repense à cette année-là, je me souviens de l'endroit où je vivais en plus. Ouais, je suis remontée à Paris à ce moment-là en partie. J'ai vraiment vécu avec un nuage noir, il faisait moche, il faisait froid. Après, il y a eu le confinement et tout. Le confinement, finalement, si je commençais à aller mieux, je suis sortie de la dépression à partir de un petit peu un mois avant le confinement de 2020. Et puis, je m'accrochais à quelque chose, je sais pas, j'avais la foi, j'avais un espoir. Mais bon, j'étais quand même toujours en dépression, mais vous savez, la dépression, on n'en sort pas d'un claquement de doigts, quoi. C'est progressif, et j'avais quand même toujours des pensées très sombres. Et je me souviens avoir dit à mes parents, à ma famille, que je sortais de la dépression, et n'avoir eu aucune réaction, et je m'en ai parlé plus tard. Et c'est vrai que d'une certaine manière, le fait de ne pas avoir eu de réaction et de soutien de la majorité de ma famille m'a mis dans une position où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, de toute façon, ils comprendront jamais. Et ça a été dit, ils m'ont dit ouais mais bon comme ça va jamais, depuis des années, il y a des moments donnés où ça va ou ça va pas, bah en fait nous on s'est dit oh, bah c'est une petite déprime. Bah, déjà même si c'est une petite déprime, je pense que c'est important de soutenir des gens qui vont pas bien, surtout quand c'est les membres de sa famille, mais bon ça encore c'est notre perception. Mais j'ai aussi compris qu'en fait il y a des gens qui comprendront pas ma fréquence de bien ou pas bien. Mais j'étais encore plus mal de me dire que j'allais pas être soutenue et que j'allais être jugée si j'allais mal. En fait, c'était ça. C'était la peur, la culpabilité qu'on se dise, oh putain, elle va encore pas bien. Elle nous fait chier, ça va encore pas, tu vois. Et cette culpabilité-là a enfoncé encore plus le clou. Bon, après, la dépression, c'est vraiment une maladie mentale. Hein. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je suis en dépression parce que. C'est que c'est arrivé progressivement et c'est très sombre. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout autour de nous est noir. Et on peut pleurer en se levant le matin, on sait pas pourquoi, quoi. Donc la dépression, c'est quand même un truc de ouf. Je suis pas sûre d'avoir fait un podcast sur la dépression. Je pense que ça pourrait être cool que j'en parle. Vous me dites pareil, vous me faites un message sur Insta, les sujets qui pourraient vous parler. Je pioche, je pioche. Donc bref, et donc du coup, comment j'ai su que j'étais hypersensible? Donc c'était après ma rupture en 2018. Donc avec l'homme dont je vous parle quasiment tout le temps. Pourtant, j'ai eu beaucoup de longues relations, mais celle-ci, c'est celle qui la personne avec qui je me suis remis plusieurs fois, qui est même descendue dans le sud. On avait même un compte sur les réseaux où il était masqué l'année dernière. On s'est quitté bah, il y a quasiment presque un an jour pour jour et qu'il est parti vivre donc à l'étranger. J'en ai fait une vidéo. Et donc, on s'était séparés, on avait eu notre plus longue relation, si je puis dire, c'était entre 2016 et 2018, donc on a été un an et demi ensemble. Après, voilà, on a essayé de se remettre ensemble plusieurs fois, mais en tout cas, c'était la plus longue période. Et quand on s'est séparés, donc c'est moi qui l'ai quitté, à chaque fois, c'est moi qui l'ai quitté, mais pour autant, bah, voilà, il y avait quand même beaucoup d'amour, on s'est jamais quitté parce qu'on s'aimait pas, c'était plus complexe. Et je me souviens que je souffrais beaucoup, en fait. Je souffrais, j'avais la dépendance affective au maximum, au max du max. J'étais vraiment dans un état compliqué. Et à l'époque, j'avais une amie qui était très intéressée par plein de choses, qui étaient naturaux, etc. Et qui me disait souvent, oui, mais parce que tu vois, les hypersensibles, l'hypersensibilité. Mais elle me disait hypersensible, pour moi, c'est comme si elle me disait, voilà, tu es très sensible, point. Enfin, je mettais pas ça avec un H majuscule, je mettais pas dans une case. Quand elle me disait ça, je disais, ouais, non, mais c'est vrai que je suis hypersensible. Je dis, bah oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui soit assez émotionnel, c'est vrai et tout. Mais pour moi, c'était un truc qui un jour allait changer. C'était un truc qui un jour allait s'arrêter, quoi. Et donc, du coup, elle me dit, oui, non, mais c'est les hypersensibles. Et puis, elle m'en parle avec tellement de détails et de, comme une sorte de catégorie. J'ai dit, mais... Elle me dit, mais tu devrais regarder si tu es vraiment hypersensible. Et donc, je me suis dit, attends, là, ça veut dire quoi? C'est un concept? C'est un état psy? C'est quoi? Tu vois? Et je me souviens qu'elle m'avait envoyé des vidéos, si je dis pas de conneries, où j'avais été voir, je sais plus. Et je me suis dit, putain. Et vraiment, la nana a commencé à dire, est-ce que vous ressentez ci? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Plein de questions, très précises. Je me suis dit, mais oui, c'est moi. Et c'était la révolution dans ma tête. Je me suis dit, mais je suis hypersensible, en fait. J'ai des compétences différentes de la norme. Donc, en fait, je suis pas une folle, quoi. Et je vous jure que ça m'a... Ouais, ça je sais pas, ça a révolutionné... Ça a révolutionné ma vie, en fait. Tout d'un coup, tout a changé. Et je me suis dit, mais en fait, je suis normale. C'est juste que je suis différente. Et de là, vraiment... Ouais. De là, vraiment, progressivement... Donc ça, c'était 2018. Ma dépression, c'était entre 2019 et 2020. Et progressivement, j'ai fini par accepter cette sensibilité et à en faire quelque chose de grand et de fort. Et à lire, et d'ailleurs, et à me documenter beaucoup, à parler avec plein de gens qui étaient hypersensibles, et on se donnait des tips, etc. Donc c'était cool. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur l'hypersensibilité. Notamment aussi qu'il y avait beaucoup de liens avec l'hyperintuition, qu'il y avait aussi, bah, quand t'es hypersensible, tu peux aussi sentir plus d'odeurs, percevoir plus de choses. Quelqu'un va te regarder, bah, tu peux percevoir des choses dans un regard, on va te toucher, ça peut te procurer même au niveau sensoriel beaucoup plus d'émotions. Mais alors, les hypersensibilités ne se ressemblent pas, on est hypersensible sur plein de plans différents, mais quoi qu'il arrive, il y a un truc qui est commun à tous les hypersensibles, c'est quand même l'hyperintuition, surtout quand elle est assumée et quand elle est... j'allais dire travailler, quand on la met en application, en fait, on se rend compte que tout le monde a l'intuition, mais l'hypersensible, ça va beaucoup plus vite. Moi, tu sais, les gens qui perçoivent les situations super vite, tu vois, et qui comprennent tout de suite, qui ont une clairvoyance sur la situation, et moi, des fois, je parle avec des gens, et pour moi, en fait, ce qui est chiant en tant qu'hypersensible, c'est qu'il y a des choses pour moi qui semblent tout de suite logiques, claires, et je vois d'autres personnes qui sont là à être hyper rationnelles, à dire ouais, non, mais c'est rentable, machin, je dis non, mais en fait, là, ça pue, tu vois pas que ça pue. Ça sent, non, mais vas-y, il faut quand même essayer. Il y a ce côté hyper rationnel où on va, on fonce dans le mur parce que c'est rentable, c'est pratique, mais non, il a pas dit ça, mais non, il a l'air. Et moi, je sais, en fait. Voilà, et ça, c'est très typique de l'hypersensible. C'est vraiment ce que je revois chez toutes les personnes hypersensibles, c'est qu'elles savent quand, en tout cas, c'est assumé. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, je sens le truc, mais comme moi avant, je fonce dans le tas, je fonce dans la merde. Bon, bah, pour plein de raisons, hein. Je veux pas déranger, j'ai des croyances limitantes, je suis conditionnée. J'écoute pas parce qu'on m'a pas appris à écouter, je rejette ça alors qu'en fait je sais déjà, quoi. Bref, et donc du coup j'ai lu un livre, c'est le seul livre que j'ai lu sur l'hypersensibilité. Je suis pas une grande lectrice, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien lire des articles, écouter des vidéos, etc. Mais j'ai lu le livre Je pense trop, donc c'était dans le Je pense trop, voilà, vous le taperez, vous le trouverez, très facile à lire. C'était justement mon ami de l'époque qui me l'avait conseillé pour moi. Enfin, à l'époque, il y avait très peu de livres sur l'hypersensibilité. D'ailleurs, le mot hypersensible n'était même pas encore vraiment posé. Donc, je vous dis ça, c'était 2018. Mais depuis, ça a explosé en 5 ans. L'hypersensibilité, c'est vraiment devenu le sujet, enfin, un des sujets hyper. Alors, j'ai envie de dire controversé, oui et non. Mais en tout cas, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et des fois, même, ça me saoule parce que j'entends hypersensible à toutes les sauces. Et ça veut tout dire et rien dire des fois, hein, dans certaines situations. En fait, j'arrive au principe, et je vais venir après, que hypersensible, ouais, bah, c'est une faculté, c'est cool, mais en fait, c'est, bah, ouais, pour moi, c'est un super pouvoir. En fait, c'est une faculté en plus, c'est un sixième sens. Il y en a pour qui c'est hyper désagréable parce que l'hypersensibilité peut être beaucoup plus exacerbée quand elle est rejetée et quand on s'en sert contre soi-même, en fait. J'y viens. Donc la question c'était, enfin, le podcast c'est si j'étais libre en étant épanouie et hypersensible, quoi. Genre je suis épanouie et je suis hypersensible, les gars. Mais c'est mon cas. Je suis épanouie, je suis hypersensible. Et aujourd'hui, mon hypersensibilité, d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que les extrêmes sensations et les up and down et trucs, bah, ils prennent, enfin, ils sont beaucoup moins présents, en fait. C'est comme si j'ai pas guéri mon hypersensibilité. Elle est toujours là, mais c'est juste qu'elle est tempérée, elle est équilibrée, elle a repris sa place parce qu'il n'y a pas de rejet, parce que j'ai fait une thérapie, parce que je m'écoute, du coup je ne force pas contre mon intuition. Justement, tu ressens un truc, bah en fait maintenant je sais qu'il y a des trucs que je sais, bah je vais pas commencer à m'inventer du rationnel, je sais en fait. C'est-à-dire qu'à force de me connaître, d'avoir été dans des décisions qui étaient contre mon intuition, bah j'arrête d'aller contre ça en fait. Je me dis, mais si tu sais, meuf. Ok, personne va capter pourquoi tu sais, personne va comprendre pourquoi tu dis non. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit non à un projet dans une maison d'édition qui traînait parce que je ne le sentais pas. Et pour autant, sur le papier, ça claquait, hein. Franchement, sur le papier, ça claquait. Mais je préfère prendre mon temps parce que j'ai pas envie, enfin, pour pas vous dire la plus grosse maison d'édition d'Europe, mais parce que non, non. Et à un moment donné, quand c'est non, bah c'est non. Voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais voilà, tout ça pour dire que. Excusez-moi, je bâille. Oh là là. Ouh. Tout ça pour dire que je finis par être épanouie dans mon hypersensibilité parce qu'elle fait partie de moi. Et j'ai aussi accepté qu'il y a des gens, des fois, qui sont eux-mêmes hypersensibles et que vous les exacerbez aussi parce qu'en fait, eux-mêmes se rejettent. Ils s'interdisent d'être. Il y a ceux qui vont que vous saouler simplement parce qu'ils ne vous comprennent pas et vous dites, oh là, elle est perchée celle-là. Et puis, il y a aussi bah, qui vous admirent d'être pleinement vous et qui aimeraient avoir plus de finesse dans les interprétations, dans le ressenti, etc. Bah, des fois, ce sont des gens qui sont eux-mêmes hypersensibles, qui ne s'autorisent pas, puis des personnes qui ne le sont pas. Ce sont des personnes qu'on appelle normopensantes, avec une sensibilité qui n'est pas plus poussée, si je puis dire, plus développée. Voilà. Elle l'est, hein, quoi qu'il arrive, on a tous une sensibilité, mais nous, c'est vrai qu'on va être sensible en fonction de chaque personne, évidemment, sur plein d'autres choses, comme je l'ai dit, notamment sur l'hyper-intuition, si je puis dire. Hein. Et donc, je ne me suis pas dit un jour, ça y est, c'est bon, je suis hypersensible, équilibrée, tout va bien. Non, c'est un truc, je me suis rendu compte avec le temps. J'ai tellement œuvré sur moi, j'ai tellement fait en sorte de me sécuriser moi émotionnellement, me sécuriser psychologiquement, me sécuriser professionnellement, matériellement, dans mon entourage, la sécurité et l'amour que je me suis apporté dans tout mon cheminement, notamment dans ma thérapie, j'en parle à chaque fois, la méthode Charbonnier. Toutes ces choses-là que j'ai mis en application, au cumul évidemment, font qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jour de ma vie où je me dis je suis hypersensible. Enfin, c'est pas un débat, c'est pas un sujet. Enfin, je m'en fous. C'est une information qui m'apporte plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'apporte rien. Ça remet rien en question. Non, aujourd'hui, c'est juste, bah voilà, je suis moi-même. Et puis c'est tout, quoi. Et je suis épanouie parce que je suis moi-même. En fait, quel exemple prendre? On peut prendre l'exemple de la bouffe pour expliquer ce que c'est quand on n'est pas aligné. Quand on n'est pas aligné ou quand on rejette qui on est. Tu fais un régime, bon, ça, je pense que ça parle à pas mal de nanas. Tu t'interdis de manger par exemple du sucre, donc plus de sucre, plus de fruits, plus de glucides, plus rien. On l'a tous fait là, des régimes à la con. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu essaies de te contrôler pour ne pas manger ces aliments. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, sachant que tu en as besoin, tu vas faire ce qu'on appelle une crise d'hyperphagie et ou boulimie si derrière tu te fais vomir ou quoi, parce que tu vas rentrer, ton cerveau, il va être en contradiction avec tes besoins. Enfin, ça va devenir une obsession et c'est ça qui crée bah, les excès. Et ça peut être pareil dans plein d'autres choses. Si tu as sachant que la bouffe, c'est quelque chose de naturel, donc c'est là où ça rend fou. Mais si tu as des fois des grosses blessures et que tu vas vers des addictions, on est d'accord qu'une cigarette peut ne pas être addictive et elle peut le devenir pour certaines personnes. La drogue, c'est pareil, l'alcool, c'est pareil, la bouffe, c'est pareil, le sexe, c'est pareil, le sport, c'est pareil. Ça peut devenir une addiction quand c'est pour combler quelque chose. Et encore plus, là, dans le cadre du régime, on est quand même dans un truc à la base qui est censé être naturel, c'est-à-dire manger. Hein, c'est censé être un besoin naturel. Évidemment, bah, parfois, quand on nous a déglinguer notre rapport avec la nourriture, et bah, du coup, on a des comportements derrière qui vont en être emporter les préjudices, si je puis dire, c'est-à-dire bah, avoir un comportement avec la nourriture qui est totalement pervers, ouais, je pense que c'est le mot, pervers. Bref, donc du coup, t'as peur de grossir, t'as peur de mourir, d'être en mauvaise santé, de ceci, de cela. Bref, t'es dans l'or là, tu tombes dans l'orthorexie, quoi qu'il arrive. Hein. C'est la peur hein, des aliments, de manger. Et donc, si tu veux, moi, ce que je trouve intéressant dans cette comparaison, c'est pareil avec la sensibilité. C'est-à-dire, tu te dis, non, non, mais moi, j'en parle avec des personnes des fois qui me disent, moi, j'aimerais ne rien ressentir. J'aimerais être solide. J'aimerais que ça me fasse rien. Mais parce qu'en fait, vu que tu rejettes le fait d'avoir des émotions, tu rejettes le fait de peut-être, toi, tu vas avoir besoin. Par exemple, moi, il y a un truc que je fais, c'est vraiment pour vous expliquer. Parfois, quand je te dis je pleure, maintenant, mais j'y vais à donf! Je suis là, je crie et tout! Je m'en fous! Il faut en fait! Parce que c'est pareil, il n'y a pas de représentation dans les pleurs. On voit des pleurs, c'est des petites larmichettes et ça pleure comme ça et tout. Oui, il y a des gens qui vont avoir besoin de pleurer, d'hurler. On est tous différents et je crois que des fois, on ne s'autorise pas parce que bah, on nous a appris que pleurer, ça voulait forcément dire que c'était la fin du monde, que ça n'allait pas. On peut en effet pleurer parce que ça ne va pas. Mais que ça va pas là, mais ça va en fait. C'est juste que là, ça va pas, j'ai une émotion, je la laisse sortir, mais ça veut pas dire que tout mon être est dans un état de souffrance extrême et que je vais sauter d'un pont. Il y a cette peur là quand on pleure. Je parle de pleurer parce que c'est vraiment l'émotion, je crois, qui me fait plus peur, notamment les hypersensibles, de pleurer, d'exprimer quelque chose qui va pas, de s'opposer, de dire non, de s'affirmer, parfois sans avoir à se justifier juste parce que c'est comme ça. Et ben moi, je m'autorise à chialer de ouf, quoi. À chialer de ouf, à pleurer, à des fois écrire, me filmer parfois. Et quand je me filme, je me dis, waouh, ouais, c'était vachement extrême, quoi. Mais sans culpabilité, juste à ouais, waouh, comme ça traverse. Mais pour moi, en fait, c'est comme du pu, quoi. Faut que ça sorte, et puis c'est tout, parce que chez nous, c'est tellement des vagues. C'est comme si, en fait, on avait plus d'antennes. En fait, t'as plus d'antennes, tu captes plus de trucs. Donc, forcément, bah, dans ton corps et dans ton cœur, ça va être plus électrique. Mais si tu t'autorises pas à exprimer ça, bah, c'est là où tu pètes un câble, en fait. C'est là où tu pètes un câble. C'est comme si tu prenais une décharge et t'es là, non, je ne craquerai pas. Et bah ouais, mais bah en fait, c'est normal, t'as des réactions à avoir naturelles et c'est hyper important de les avoir. Et surtout quand on vit dans un monde qui est, j'allais dire hétéronormé. Non, normopensant, on n'est pas dans le même truc. Bah oui, hétéronormé aussi, mais aucun rapport. Normopensant, forcément. On est plus sur le côté rationnel des choses et on a l'impression en fait que c'est totalement perché, totalement fou, qu'on est bizarre. Non, t'es comme t'es en fait, c'est tout, puis fuck, et puis tu vas voir comment c'est vachement cool d'être soi-même. Et les gens qui n'arrivent pas à respecter qui tu es, bah, dégage de ta vie quoi. Alors ta famille, bon bah évidemment c'est toujours un peu plus complexe, mais en vrai, bah, il y a des familles franchement, elles sont toxiques, et bah tu coupes les ponts et puis c'est tout. Moi, j'ai déjà coupé des points avec mes parents à une époque. Bon, est-ce que c'était plaisant? Absolument pas. Est-ce que c'était nécessaire? Oui. Et puis, c'est la vie. Puis après, bah, heureusement, ça a pu redémarrer. Et voilà. Avec des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, quand même, ça va beaucoup mieux qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper, hyper, hyper important de comprendre que putain, sois toi-même, parce que je vais voir, c'est trop stylé. Et ça va s'équilibrer. Et puis, bah, évidemment, demande de l'aide, fais une thérapie, prends soin de toi, fais plein d'exercices pour te permettre d'accepter plus qui tu es. Viens dans les retraites femmes puissantes aussi, c'est stylé. La prochaine est au mois de juillet pour information. Mais voilà, c'est hyper important de mettre des choses en œuvre pour justement accueillir qui tu es, quitter la merde qu'il y a dans ta tête et peut-être la merde qu'il y a autour de toi dans ton environnement. Et puis oser aller vers quelque chose de plus ouf quoi dans ta vie quoi. Voilà, va vers quelque chose de plus ouf, ose être toi-même parce que l'hypersensible, il a besoin de vibrer. Et puis il est rempli de peur, de croyances, de limites, mais la peur, elle amène à rien. Si ce n'est que bah, s'il y a une peur, bah, il faut la traverser. Alors, bien sûr, je ne parle pas de la peur de sauter dans le vide et de mourir sans être attaché, ça s'appelle l'instinct de survie, hein? Mais la peur, la limite qu'on se crée, on peut très bien l'exploser, quoi. Donc voilà, aujourd'hui. Moi, je suis épanouie, hypersensible, grosse. L'hypersensible aussi a un rapport avec l'alimentation qui peut évidemment être aussi un peu émotionnel. Et c'est OK, hein, évidemment, c'est pareil, ça se chemine, on peut mettre des choses en place là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment hypersensible, enfin, même pas assumée, genre hypersensible qui s'en fout de l'être. Je suis épanouie en ayant bah, mon super pouvoir, quoi. J'ai un super pouvoir qui est celui d'être moi. De ressentir les choses et tout. Et c'est drôle, aujourd'hui, j'étais en call avec maison d'édition, parce qu'en fait, là, on est en train de choisir la maison d'édition pour mon livre, parce que bon, il y a eu pas mal de rebondissements, je vous en dirai pas plus, mais voilà, le livre va sortir quoi qu'il arrive. C'est juste que maintenant, bah, on cherche la pépite de maison d'édition avec mon agent. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est qu'on me dise, ouais, qu'on aime ma personnalité, mais que je suis authentique. C'est drôle, c'est un truc qui revient beaucoup, bah, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas le choix. Dès que j'ai essayé de ne pas être moi, ça n'a pas marché dans la vie. Et d'ailleurs, quand j'accompagne des personnes, parce que j'accompagne quelques personnes sur les réseaux, des gens qui ont déjà leur expertise, leur métier, hein, j'accompagne pas des personnes qui se disent « Ah, je veux savoir ce que je veux faire dans la vie », vraiment des gens qui ont déjà leur expertise, leur métier, qui savent pas juste se vendre sur les réseaux. Moi, j'accompagne que des gens avec qui ça vibre déjà ce qu'ils font, et je les invite toujours à être eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des codes, des petites stratégies, des trucs, des machins, c'est ok, c'est normal, c'est un métier, mais il faut être soi-même. Si t'es pas toi-même, c'est même pas la peine. Si tu t'inventes une histoire, si tu t'inventes une personnalité, ça ne sert à rien. Ça se sent, ça se voit, ça vibre. La vie, c'est d'être soi, que tu sois hypersensible ou non. Mais c'est l'essentiel, encore plus quand t'es hypersensible. Parce que l'hypersensible, en fait, lui-même, s'il se ment, il se sent coupable. Et du coup, il se culpabilise de se mentir, mais en même temps, il se culpabilise parce que bah là, quand il est conditionné, il se dit « Oui, mais je suis pas comme les autres. » Mais c'est stylé de pas être comme les... Mais je ne veux pas être comme les autres. Mais voulez-vous être comme les autres? Mais seigneur, non. Mais c'est nul d'être comme les autres. Moi, j'adore être différente. C'est ce qu'on me dit tout le temps. T'es atypique, ça change. C'est une énergie qui est spéciale. T'es différente. Mais moi, j'adore. J'adore. Et alors oui, bah, peut-être que j'ai moins de monde autour de moi parce que je suis spéciale. Bon, oui et non. Enfin, après, les gens veulent beaucoup me fréquenter, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'ils me connaissent à travers les réseaux. Donc, c'est pas... Enfin, voilà, moi, je ne fais pas amie avec des gens qui m'ont rencontré sur les réseaux. Ça, c'est mort. Je ne fais pas amie avec des abonnés ou ce genre de choses. Désolée. Mais parce que bah, y a une perception qui est de toute manière biaisée et un peu... comment dire, un peu de l'ordre de l'admiration, d'inspiration. Moi, je suis amie avec des gens avec qui je suis amie depuis 15-20 ans ou éventuellement des personnes dans le milieu où je sais qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Mais bon, ça reste assez rare. En général, j'ai quand même mes amis depuis longue date qui m'ont connue avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, soyez vous-même, quoi. Vibrez, kiffez votre life. Parce qu'on veut être, soi et être différent. C'est ça qui fait toute sa force, toute sa puissance. Et de là, l'hypersensibilité, on peut en faire quelque chose. En vrai, si tu te sers de tous les paramètres de ton hypersensibilité, tu es capable de faire énormément de choses. Par exemple, je développe de plus en plus l'impro. Je n'écris pas une ligne de ce podcast. Je vous parle au gré de mes pensées. Je n'ai pas pris de notes avant. Et en fait, je me rends compte dans tout ce que je fais, je suis beaucoup plus balèze pour la spontanéité que pour ce qui va être écrit, cadré, révisé par cœur. Je n'arrive pas. Tout à l'heure, ça me faisait rire dans le call, il disait t'as souvent des punchlines. C'est vrai, j'ai des punchlines, j'ai des mots qui me viennent, des phrases. Pas toujours, hein, évidemment, des fois je dis comme tout le monde un peu de la merde, ça peut arriver. Mais j'ai des fois des trucs qui me viennent spontanément. On dit qu'on canalise ou quoi, ok, c'est peu importe. C'est mon hypersensibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon cerveau va réussir à capter entre la langue française, que j'adore, le français, c'est une magnifique langue que j'aime et que j'affectionne particulièrement, parce que je trouve que c'est une langue incroyable, même si très complexe, on va pas se mentir. RIP, les dyslexiques, je vous fais des bisous d'amour. Franchement, si vous m'écoutez, je dyslexique, langue française, seigneur, franchement, vous êtes des warriors, je vous le dis. Je suis entourée de beaucoup de dyslexiques. Et aujourd'hui, je juge plus du tout les gens qui font des fautes d'orthographe. Je comprends pas qu'on juge les gens qui font des fautes d'orthographe. Ça me gonfle. Je trouve ça nul. Je trouve ça naze. J'ai des gens autour de moi qui font des fautes d'orthographe et qui sont des gens incroyables. Vraiment. Enfin, qui sont plein de bonne volonté et qui corrigent leurs fautes parce qu'ils savent que dans ce monde, bah, c'est mal vu de faire des fautes. Mais voilà, ça, arrêtons avec ces conneries là de fautes d'orthographe. Ça m'énerve au plus haut point. Comme disait Romane Frissinet, ceux qui corrigent les fautes d'orthographe, ils vont pas aller au paradis. Voilà, sinon vous allez au paradis, vous ferez des dictées. Je ferme la parenthèse, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre cette langue française et mon émotion et ma perception des choses, tac tac tac, tout s'articule, et ça c'est quelque chose qu'avant j'assumais pas, je me disais, enfin assumer, j'acceptais pas, j'avais honte limite d'être efficace, je me disais oui mais les gens vous pensez que si je prends pas de notes, je suis pas sérieuse, non en fait juste bah, je suis différente, je fonctionne différemment tout simplement. Excusez-moi, j'entendais un bruit, je me suis demandé ce que c'était, on aurait dit... Attendez, il y a un petit bruit, je mets pause et je reviens tout de suite. Bon, c'était les voisins. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est hyper important pour moi de vous préciser que c'est pas une maladie, c'est pas une tare. Des fois, j'ai lu des trucs sur Internet, oui, guérir de l'hypersensibilité et tout ça, oh my god. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre l'hypersensibilité. Je pense que comme dans beaucoup de choses, parfois, on a besoin de comprendre la base, la construction et tout. Et puis après, une fois qu'on connaît un peu tout ça, après, c'est bon, on peut passer à autre chose. Il y a plein de trucs dans ma vie comme ça où j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'importance, décortiquée, j'en ai fait presque une religion limite. Et puis après, c'est ok, d'accord, j'étais au bout du sujet. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir autant de compréhension, d'y mettre autant d'attention parce que, un peu, genre, quand je dis c'est réglé, c'est genre j'ai cheminé là-dessus et j'ai pris, j'ai laissé ce qui m'intéressait ou pas. Et puis, je suis passée à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, il y a des sujets pour moi, il n'y a même plus de questions, il n'y a plus de débats. Voilà. Et c'est ça qui est bien dans l'évolution, c'est qu'il y a des choses, on a besoin à des moments donnés de décortiquer. Ça devient un peu le centre de tout. Et puis après, moins quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité, moi, c'est plutôt que je vois des gens autour de moi qui ont l'air de souffrir d'être, de pas être eux-mêmes, en fait, notamment des femmes. Et c'est génial dans les retraites où on les voit finalement kiffer, chanter fort, danser, hurler, crier, pleurer, être elles-mêmes et dire ce qu'elles pensent et s'affirmer. Je vois des fois même des noms bien fermes qui n'auraient pas été posés au départ. Et c'est ça qui est magnifique aussi, hein, c'est vraiment de s'affirmer tel que l'on est, hypersensible ou non en soi. Et d'ailleurs, je précise, je connais une hypnothérapeute, Camille Cordella, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vous dire son. Elle est hypnothérapeute sur l'hypersensibilité. Alors, Camille. Hypnose, donc c'est hypnose, le tiret en bas, PNL, tiret Camille, donc Camille Cordella, donc c'est hypnothérapeute et coach en PNL. Et du coup, elle aide les hypersensibles qui souffrent hein, de l'être, de cette différence, hein, à en faire un super pouvoir grâce à l'hypnose. Elle a notamment un programme sur l'hypersensibilité, un questionnaire. Enfin là, je vous invite vraiment à aller la suivre si vous voulez creuser là-dessus. Et à mon niveau, je veux faire un bisou. Je pense avoir pas mal parlé, 45 minutes. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter des podcasts aussi longs. Même moi, je ne suis pas sûre de pouvoir, d'avoir le temps de le faire. Même si en vrai, c'était un plaisir. Il y a certaines podcasteuses que j'écoute, que je pourrais écouter des jours et des jours entiers. Donc, si en fait, si vous m'aimez bien comme moi, j'aime les autres, je peux comprendre. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me faire votre retour sur Insta, à laisser un avis. Alors, je sais qu'il y a un grand gros problème. Mon podcast, il n'est pas partout sur Deezer, il fonctionne pas. Il faut que je change d'hébergement. Pareil, il faut que je m'en occupe. Mais n'hésitez pas à me faire un retour, un avis, un message, un vocal. Peu importe, ça me fait toujours plaisir. S'il y a des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde, j'ai pas dit que je vais le faire, mais si je vois que ça revient souvent, pourquoi pas? Ça peut être des pistes à explorer. Je vous fais de gros bisous et passez une bonne semaine. Thank you.